Radio Kapi.
En entame de cette édition, nous vous parlons de cette bonne nouvelle pour les voyageurs sur l'eau. Le bateau MB Lubero est opérationnel depuis hier samedi. Il a quitté Kinshasa pour Mbandaka avec plusieurs marchandises et des passagers. Jean-Désiré Kanyama nous en fait le point dans cette édition. Et puis cette décision du gouverneur de la province du Nord Kivu qui interdit toutes les manifestations dans la ville de Butembo qui frise les émeutes et profite aux terroristes ADF MTM. Vous suivrez à cet effet son porte-parole, le général Sylvain Ekenge. Il intervient en fin de cette édition comme invité. Dr Jacques Ngondo, chef de sous-bureau de l'UNHCR ad interim, parle des réalisations du HCR dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre dans le Grand Kasaï. Fidèles auditeurs, merci de la confiance que vous accordez à Radio Kapi pour votre information. Bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. Billy Van Lutumba devant ce micro pour la présentation de ce journal. Ici à Kinshasa, le bateau MB Lubero de la Société commerciale des ports et transports ex-Onatra a quitté Kinshasa ce dimanche matin pour Mbandaka avec à son bord des dizaines de passagers et des tonnes de marchandises, essentiellement du ciment et divers articles. C'est après sa réhabilitation par le comité de gestion de cette entreprise en conformité avec son programme de la reprise du trafic fluvial, a dit ainsi le président de l'intersyndicat de l'ex-Onatra. Témoin de l'événement au port fluvial de Kinshasa, Jean-Désiré Kanyama.
Expression de joie d'abord pour l'équipage.
Yalala François Moninseka, premier capitaine à bord de Lubero. Nous sommes très fiers. Oui, c'est d'après une dizaine d'années, on ne voyageait plus. Alors, c'est 4 et 6e jour, nous sommes à Mbandaka.
Son collègue pense déjà à la descente Mbandaka-Kinshasa.
Opérateur Malamateta, je suis chargé de la communication. Nous souhaitons transporter même au-delà de 500 tonnes à la descente.
Même sentiment partagé par le passager, en premier les commerçants.
Kalinga, Jean, ça fait 10 ans, on n'a pas vu des choses comme ça. On ne s'y attendait pas. Il y a des marchandises, des habits, il y a du ciment, des divers, un peu de boissons, des jus festins.
Jean Kalinga espère ramener plein de choses de l'Équateur.
Il y a des poissons fumés, il y a du foufou, il y a de l'huile de palme, de maïs. Donc tout ça, on va amener.
Le sous-directeur commercial et marketing au département port transport fluvial parle du prochain programme.
D'ici P, Kisangani et Axe Kasaï. Parce que nous avons un programme au moins l'effectivité de 6 unités, c'est-à-dire 6 bateaux.
Selon Armand Ossassé, il est prévu la réhabilitation d'autres bateaux.
Nous avons dans les programmes effectifs 20 bateaux et 40 barges. Il reste maintenant que le ministre des Finances autorise aux banques de mettre à notre disposition notre créance.
Bon voyage.
Merci,
bon voyage.
Merci, bon voyage.
Merci, bon voyage. Merci.
Le président de la République a dit être informé des activités minières illicites dans la province du Haut-Uele où il est signalé la présence des sujets étrangers exploitant l'or avec des engins lourds. Félix Tshisekedi l'a dit vendredi au cours de la 64e réunion du Conseil des ministres tenue à Kinshasa. Il a précisé que ces activités minières s'effectuent entre autres dans les zones d'exploitation artisanale en complicité avec les coopératives minières qui laissent les étrangers accéder avec les engins lourds. On écoute à cet effet un extrait du compte-rendu de la réunion du Conseil des ministres lu par Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, extrait proposé par Alain Hirung.
Le président de la République a rappelé que ces pratiques violent les dispositions du code minier relatif à l'éligibilité à l'exploitation artisanale et celles ayant trait aux aires protégées. Tout en rappelant ses instructions lors de la 29e réunion du Conseil des ministres, en rapport avec la lutte contre la fraude minière, notamment la poursuite de l'identification de périmètres de recherche où s'effectuent les activités minières illicites. Et compte tenu de la recrudescence de ces phénomènes dans la partie est de notre pays, le président de la République a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, en prendre des actions urgentes pour stopper sans délai ces exploitations illicites. L'implication étroite de la ministre de la Justice ainsi que celle des mines a été requise par le président de la République afin d'initier une mission d'enquête sur les activités illicites dans cette partie du territoire national et de les faire rapport assorti des recommandations lors du prochain Conseil des ministres.
Au Nord Kivu, le gouverneur de province frappe d'interdiction toutes les manifestations dans la ville de Butembo qui frisent les émeutes et profitent aux terroristes ADF MTM. Il appelle surtout les mouvements citoyens à se désolidariser des groupes armés. Cette mesure est contenue dans une communication officielle faite hier à Goma par son porte-parole. Cela fait suite aux dernières manifestations ayant occasionné la mort des éléments des forces de l'ordre dans cette ville. Le lieutenant-général Constant Dima instruit les forces de défense et de sécurité de mettre hors état de nuire toute personne ou tout groupe de personnes qui se rendraient coupables des actes criminels et les déférer devant les juridictions compétentes pour subir la rigueur de la loi. On écoute le général Sylvain Ekenge, porte-parole du gouverneur, dans ses propos recueillis par la presse officielle du gouvernorat.
Tout en comprenant le ras-le-bol de la population, le gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu juge intolérable et insupportable la récupération de la situation par les tireurs des ficelles et les attaques armées contre les forces de défense et de sécurité qui, pourtant, accomplissent leur mission constitutionnelle, légale, citoyenne et régalienne par les groupes armés Maï-Maï associés aux manifestants. Il est regrettable de constater que ces groupes Maï-Maï qui avaient pris les armes pour combattre les agresseurs de notre pays et les ennemis de la population servent de supplétifs aux terroristes ADF-MTM face à cette situation très préoccupante et inimaginable. Le gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu appelle la population et surtout les mouvements citoyens et les jeunes à se désolidariser des groupes armés et à cesser immédiatement avec ces manifestations.
Par ailleurs, le général Ekenge dresse le bilan des incidents du 12 août à Butembo. Il parle de 5 policiers, dont le commandant second de la LENI tué, l'incendie des 3 jeeps de la police, la disparition des 8 armes AK-47, d'une lance-roquette RPG-7 et d'un pistolet 9 mm emporté par les combattants des groupes armés dissimulés parmi les manifestants. Le général Ekenge parle des actes criminels insupportables et inacceptables. La solution à la crise sécuritaire à l'est de la RDC ne réside pas dans toutes les stratégies des recours extérieurs avec des forces armées régionales. C'est ce que pense le député national élu de Goma, Jean-Baptiste Kasekwa. Il l'a affirmé au cours d'une conférence débat qu'il a animée hier à Goma. Une centaine de populations de toutes les couches sociales confondues y ont participé. Cet élu de Goma propose au gouvernement congolais quelques pistes de solutions pour mettre fin à cette instabilité qui ne fait que se perpétuer. Il demande entre autres au gouvernement de se focaliser sur la réforme de l'armée et des services de sécurité. L'élu de Goma regrette ce qu'il qualifie de la sous-traitance de la sécurité intérieure de la RDC par les armées régionales. On écoute les députés Jean-Baptiste Kasekwa.
La solution ne va pas venir des forces régionales qui viennent chacun être autorisé par notre propre gouvernement à venir combattre ces rebelles sur notre propre sol. Les Burundais viennent s'occuper de leur Red Tabara. Les Ougandais de leur ADF. Les Sud-Soudanais vont venir s'occuper de leur rébellion dans les Ouélé. Nous devons nous mobiliser pour obliger les gouvernements à se focaliser sur la montée en puissance des FARDC. Les dirigeants congolais ont pris le loisir de sous-traiter la sécurité intérieure de la RDC, compter sur la MONUSCO, sur l'Ouganda, sur le Rwanda, compter sur les forces sous-régionales et délaisser complètement les FARDC. Il faut organiser donc cette table ronde pour évaluer les opérations militaires et l'échec du TDRC, focaliser l'attention sur la réforme et la montée en puissance des FARDC, de la PNC et dans le service de sécurité pour ne plus continuer à tourner les regards. Il est temps que nous puissions reprendre la sécurité de notre pays entre nos propres mains.
Parlons de cette autre actualité dans le territoire de Beni. Plusieurs cas de vol à main armée ont été signalés la nuit du samedi à ce dimanche dans la commune rurale de Mangina, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Beni. L'organisation Convention pour la défense des droits humains, qui parle des cas répétitifs, appelle la population à la vigilance et aux services de sécurité à la promptitude des réponses aux alertes. Marc Marofimbo pour des précisions.
Les sources locales renseignent que les bandits armés ont d'abord visité certaines habitations du quartier Ndabou aux environs de 1h du matin où ils ont apporté une somme d'argent évaluée à 10 000 francs congolais. Ils prendront fuite à la suite des alertes de la population à direction de la ville de Beni. À leur passage, ils ont tiré sur un habitant d'une soixantaine d'années qui a été rapidement dépêché à l'hôpital général de référence de Beni pour des soins appropriés. Les cas de vol en main armée étant devenus répétitifs dans la commune de Mangina, la Convention pour la défense des droits humains, CRDH, pour le renforcement des services de sécurité en logistique conséquente pour répondre en temps réel aux alertes de la population. Moïse Katembo est le chargé de monitoring de CRDH à commune de Mangina.
Nous demandons aux services de sécurité de chaque fois intervenir à temps réel et au gouvernement de doter une logistique nécessaire et à nos forces de l'ordre et à la population d'alerter à Tareyeul et aussi collaborer avec les services de l'ordre.
Contactée à ce sujet, la police en commune de Manguina confirme les faits et dit avoir ouvert une enquête. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
L'actualité nous amène dans la province de l'Ituri où une trentaine de maisons incendiées, plus de 20 personnes disparues. C'est le bilan provisoire d'une nouvelle incursion des rebelles ADF hier samedi à Lumamisa dans le territoire de Mambasa. C'est la nouvelle société civile de Mambasa qui avance ce bilan que les autorités militaires ne confirment pas encore. Cette structure citoyenne salue l'intervention de l'armée qui a permis à sauver des vies humaines. Le point avec Clarisse Zindoula.
Ces rebelles se sont introduits tôt le matin de samedi dans ce village situé à 35 km au sud-est de Mombasa Centre. Certains habitants ont réussi à atteindre le centre commercial de Mombasa avant que ces assaillants ne barricadent la route. D'autres familles qui ont pris la direction de la forêt n'ont pas pu traverser la rivière Mutufei qui a quitté son lit à cause des pluies abondantes qui tombent dans cette région, rapporte le coordonnateur de la nouvelle société civile locale. John Vuleverio dit que plusieurs enfants se seraient noyés en essayant de gagner l'autre rive. Il ajoute que des soldats des FRDC sont intervenus pour repousser ces rebelles d'ADF, ce qui a permis de limiter les dégâts. Mais ces derniers avaient déjà incendié plusieurs maisons et enlevé plusieurs personnes contactées. L'administrateur du territoire de Mombasa indique qu'il est difficile pour l'instant d'établir un bilan exact de cette incursion. Le colonel Jean-Baptiste Mouyapondi précise que les services de sécurité et l'armée sont à Lumamisa pour évaluer la situation et pour poursuivre la traque contre ces hors-la-loi. Bounia Clarisse Zindoula, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi dans la province du Kwilu. Le député provincial Dario Kimukedi dénonce le meurtre hier samedi d'un jeune homme par les éléments de la police en mission, selon lui, non officiel, dans le village Kongilandolo, situé dans le secteur de Pai Kongila, en territoire de Massimanimba. L'élu de Massimanimba précise que la victime a succombé à la suite de ses blessures après des tortures lui administrées par ses policiers. Tout en appelant la population au calme, il demande aux instances compétentes que des enquêtes sérieuses soient menées afin que les vrais auteurs de cette bavure policière puissent subir la rigueur de la loi. On écoute le député Dario Kimukedi au micro de Irène Boma.
Nous dénonçons et condamnons avec la dernière énergie, la brutalité et les actes de torture, pourtant interdits par la Constitution et les lois de la République, de la part des éléments égarés de la police nationale congolaise de Massimanimba, ayant conduit à la mort ce matin 13 août 2022 de CR Kilundu Kumbelujetu du village Kongilandolo dans le secteur de Pai Kongila. Trois de ces éléments se sont rendus au commissariat de Pai Kongila et trois autres sont en fuite parce que venus exécuter un prétendu mandat d'amener qui ne reconnaît pas le procureur de la République près le tribunal de paix de Massimanimba. Nous exigeons l'ouverture d'une action publique de la part de l'auditorat militaire des garnisons de Kikwit suivant une procédure de flagrance pour que les présumés auteurs de ce meurtre soient jugés et condamnés conformément à la loi. En conséquence, j'invite toute la population de Pai Kongila au calme car il s'agit là d'une énième bavure policière insupportable en l'espace de quelques mois dans la contrée.
Dans la province du Maniema, plus de 200 enfants du village Itampo à 63 km de Kindu dans le territoire de Pangi ne fréquentent pas l'école. Selon le chef adjoint de ce village qui nous livre cette information, dans le village Itampo, il n'existe aucune école, qu'elle soit du niveau maternel, primaire ou secondaire, moins encore les centres de formation ni d'alphabétisation pour l'encadrement des femmes de ce village. Florence Kizalunga a visité ce village, voici son reportage.
Le chef de village adjoint de Itampo affirme que dans ce village, les enfants en âge de scolarisation ne restent qu'à la maison par manque d'école dans ce milieu. Kilaori Hassani fait savoir que cette situation expose les enfants de son village aux antivaleurs, d'où cet appel aux autorités.
J'ai une difficulté dans mon village Itampo concernant les études et aussi les mamans. Je manque de salle de réunion, même l'école maternelle, il n'y en a pas. Il y a plus de 250 enfants qui restent à la maison à cause des manquements des écoles. Même les centres de formation, il n'y en a pas. Je demande au gouvernement, tant provincial, territorial, avec mon secteur, de penser à mon village pour construire les écoles les centres d'alphabétisation, voire même les centres de santé. Ici, ma population souffre. Nous sommes comme nous vivons dans la forêt.
Le chef de secteur de BA, qui est au courant de cette situation, dit avoir informé toute sa hiérarchie et n'attend que sa réaction, car le secteur seul est incapable de construire des écoles dans ce village Itampo. Toutefois, le secteur a déjà acheté quelques tôles pour la construction d'une école. De Pangi, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
4 jours après la présidentielle, les Kenyans attendent toujours de connaître les résultats du scrutin. Mais plus l'attente des résultats se prolonge, plus l'impatience augmente, comme en témoignent des échauffourées qui ont eu lieu dans un centre national de dépouillement des bulletins de vote. La police anti-émeute a dû intervenir pour mettre fin à ces émeutes. La commission électorale doit collecter les résultats émanant des plus de 46 000 bureaux de vote puis les vérifier. Mais son directeur a lui-même reconnu que le décompte des résultats n'allait pas aussi vite que prévu. Le président Sierra Leone Julius Maada Bio a affirmé vendredi soir que les émeutes meurtrières de mercredi visaient à créer une insurrection pour renverser le gouvernement, accusant l'opposition qui a appelé au calme et à la cohésion nationale. Ce jour-là, la paix, la sécurité et la stabilité de cette nation dont l'insurrection a été préméditée, bien planifiée, financée et exécutée avec une brutalité choquante, a ainsi affirmé le président Bio dans un discours à la nation. Selon lui, ce n'était pas une manifestation contre le coup de la vie. Le chant des insurgés visait un violent renversement du gouvernement démocratiquement élu, a poursuivi le président élu en avril 2018.
L'invité.
Au Kasaï oriental, clôture jeudi dernier en Bujimaï des travaux de l'atelier de validation du plan d'action provincial de lutte contre les violences basées sur le genre dans la province. Ces travaux de 2 jours ont été organisés conjointement par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés UNHCR et le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. Le chef du sous-bureau de l'UNHCR ad interim parle des réalisations du HCR dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre dans le Grand Kasaï. Docteur Jacques Ngondo s'entretient avec Esther Dalafina.
Bonjour docteur Jacques Ngondo. Quelles sont les réalisations majeures du HCR dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre dans le Kasaï?
Alors, merci beaucoup pour cette question. La liste des réalisations du HCR en matière de lutte contre les violences basées sur le genre sont nombreuses. Je ne pourrais pas les citer toutes. Cependant, je souhaiterais me focaliser sur maintenir du moins à quelques réalisations principales. Parlons donc du présent, c'est l'accompagnement des autorités dans l'organisation donc de l'atelier sur les violences basées sur le genre. On se souvient que le tout premier atelier, c'était celui de février de cette année, à l'occasion duquel tous les 5 gouverneurs de la province de l'espace Kasaï ont été réunis. C'était un grand succès cet atelier, d'autant plus que la reconnaissance des violences basées sur le genre en tant que l'un des problèmes majeurs de protection dans la région était acté par tous les participants. Aux conclusions de l'atelier, on avait vu aussi que le gouverneur du Kasaï central avait pris 3 édits anticipant ici la mise en œuvre de son plan d'action contre les violences basées sur le genre. Je me réjouis que quelques mois après cet atelier-là, le plan d'action a été finalisé. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la province du Kasaï oriental pour suivre avec la finalisation du plan d'action de la province qui avait été entamé à l'occasion de l'atelier de Kalanga. Nous avons constaté un échange fructueux entre tous les participants et l'atelier a été sanctionné par la validation d'un plan d'action pour la province du Kasaï oriental.
Quelles sont les perspectives du HCR dans cette lutte?
La question des violences basées sur le genre est une question qui s'installe dans la durée. Elle est entretenue par plusieurs facteurs, dont les us et coutumes. Et quand on parle d'us et coutumes, il s'agit là de pratiques assorties par la suite d'opinions juristes, c'est-à-dire l'élément moral, qui fait que les gens se sentent obligés moralement d'agir de la sorte. Alors, je veux dire par là que c'est pas facile d'éradiquer de telles pratiques qui sont ancrées dans la coutume ou qui découlent des coutumes. De ce point de vue, vue, le ICA a choisi l'approche communautaire, on dirait en anglais community-based approach. Donc l'approche communautaire comme le principal sous-bassement de la mise en œuvre de son programme de lutte contre les violences basées sur les genres. En plus, le ICA a développé une stratégie prioritaire orientée vers le renforcement de la capacité des acteurs de protection, des acteurs locaux, des ONG locales, ainsi que la société civile. Voilà, pour que eux-mêmes ils puissent prendre la relève de la lutte. Voilà, parce que le ICA n'est pas appelé à rester ici éternellement. Donc, il faut que nous puissions avoir des acteurs qui puissent être à même de continuer la lutte valablement dans cette province.
Quel est le plan prévu en termes de pérennisation de la lutte contre les violences basées sur le genre ?
Pérennisation, comme on l'avait dit, le plan est celui que nous avons indiqué. Pour l'heure, nous avons le cluster protection et nous avons l'avantage d'assurer le leader de ce groupe sectoriel qu'on appelle le cluster protection est prêt à accompagner toutes les provinces de l'espace Kasaï dans la finalisation des plans d'action respectifs de chaque province. Le cluster protection a déjà accompagné la province du Kasaï central à finaliser son plan. Ça vient d'être le cas pendant ces 2 jours de travaux pour la province du Kasaï oriental. Il reste maintenant les 3 autres provinces, Sankuru, Lomami et puis Kasaï, voilà, qui auront aussi besoin d'être accompagnés. Et nous sommes à pied d'œuvre pour cela. Une fois ces plans développés, ces plans, comme nous l'avons dit, ne devraient pas rester dans les tiroirs. Ils doivent avoir vocation à être effectivement appliqués, à être évalué et à continuer à être mis en œuvre. Et c'est pourquoi nous avons assorti ce plan de mobilisation des ressources pour que l'on ne se contente pas de ce que donnent les humanitaires. Il faut que les structures étatiques, les acteurs étatiques qui sont eux-mêmes les acteurs de mise en œuvre de ce plan puissent avoir cet axe aussi de la mobilisation des ressources pour pouvoir toujours avoir les moyens, voilà, de continuer cette lutte au moment où le ICN ne serait plus présent, au moment où toutes les structures du cluster de protection seront démantelées.
Docteur Jacques Ngondo, je vous remercie.
Merci madame pour cette opportunité.
Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Fidèles auditeurs, nous vous disons grand merci pour l'attention particulière que vous nous avez accordée.